dans l'évangile de Jean. Au commencement, enfin c'est le prologue de l'évangile de Jean, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » L'évangile de Jean passe donc sous silence les circonstances de la nativité de Jésus, telles qu'elles nous ont été lues par Claude et Liliane. Jean a une autre perspective pour nous présenter la naissance de Jésus. Il a vraiment la perspective, j'allais dire, de l'absolu. Retrouver le souffle de la création et inscrire Jésus dans la dynamique de la création. Alors Jean nous dit que la parole, il nous dit l'origine de l'enfant. Et Jean nous dit qu'à l'origine de tout, il y avait la parole et que cette parole a résidé parmi nous. Il nous dit aussi que la parole était lumière, lumière des hommes. Et Jean donne une explication sur le rôle de la lumière. Je vous lis Jean 1 toujours, quelques versets que j'avais laissés de côté dans la première lecture. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. On peut passer le PowerPoint. Voilà, j'entre dans ma méditation de Noël. Et puis, bon, je reviendrai au titre. Mais je voulais vous présenter un certain nombre d'images, des images de nativité qui illustrent ce que nous avons lu et surtout l'état d'esprit dans lequel Olivia Manderson nous a plongé. Là, c'est une nativité d'un monsieur dont le nom est difficile à prononcer, Gersten Tod Signans. Donc j'imagine que c'est un Hollandais, probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais regardez la physionomie de Marie. Elle a, Olivia a fort bien su nous transcrire ce que Marie a pu ressentir. Eh bien là, l'artiste l'a fait d'une manière picturale. Ensuite, alors, bon, ça c'est beaucoup plus difficile, mais vous devinez, vous reconnaissez le Rembrandt, le célèbre Rembrandt. Et ce qu'il y a de célébrissime dans les Rembrandt, c'est la mise en valeur de la lumière. Donc, il faut imaginer que tout est noir, sauf le berceau de Jésus, et autour du berceau de Jésus, les disciples qui sont arrivés. Ensuite, là, je suis chez Arcabas. Et c'est une représentation de la nativité d'Arcabas, mais c'est Marie qui m'intéresse. Alors on va voir Marie de plus près. Là, il y a une... Il faut voir, bon, évidemment, c'est difficile, mais il faut voir cette peinture dans le détail. Il y a une tendresse absolument extraordinaire de voir Marie et Jésus qui sont... un peu à l'image où Dieu dit dans Joël qu'il prend le peuple d'Israël contre sa joue. Là, Marie prend Jésus contre sa joue. Et c'est d'une beauté inouïe. Ici, c'est l'Annonciation. Alors, de nouveau, une image extraordinaire d'Arcabas. Alors, l'Annonciation dans sa scène complète. Mais on voit de nouveau pas très bien. Alors, on voit un ange, l'ange Gabriel. Et on voit Marie à gauche, et entre l'ange Gabriel et Marie, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez entre l'ange Gabriel et Marie? Du rouge! Du rouge, eh bien c'est le rouge de la parole de Dieu. l'ange qui prononce une parole qui atteint les oreilles de Marie. C'est vraiment la parole qui sort de la bouche de l'ange et qui enflamme toute cette scène. Alors, regardons ça de plus près. On retrouve l'ange et la parole. Et pour terminer, regardez Marie. Cette Marie, exactement à l'image de ce qui nous a été lu, cette Marie qui se questionne, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Alors, je reviens à mon origine. Voilà le titre de ma prédication. Noël, une naissance, mais quelle naissance? Quelle naissance? S'il y avait des enfants qui étaient là, ils me diraient, mais enfin c'est évident quand même, si c'est à moi à dire au pasteur que c'est Jésus qui est né, c'est quand même un petit peu bizarre. Oui, quelle naissance? Je vous laisse avec cette interrogation. Je vous laisse avec cette interrogation que je fais rebondir en vous disant, mais quel est en fait le rapport entre le récit de Luc et le récit de Jean? Vous avez entendu dans le récit de Luc qu'il est parlé de la naissance de Jésus, qu'il est parlé d'une crèche, qu'il est parlé de bergers. Tout cela a été illustré par les images que je vous ai présentées. Et puis, dans l'évangile de Jean, de nouveau, hein, je le répète, il y avait la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et puis nous avons pu la contempler. Et puis ensuite, il est dit que finalement, que à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés non pas de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Alors je vous repose la question, mais quel est le rapport entre ces deux récits? Quel rapport vous mettriez entre ces deux récits de création? C'est pas évident. Se dire, j'ai deux récits qui sont apparemment incompatibles, j'arrive vraiment pas à les tricoter ensemble, à les harmoniser. Alors écoutez, moi j'avais pas de réponse aussi évidente à vous présenter, ce qui fait que j'ai été fouillé dans les pensées de ceux qui m'ont précédé, et je suis tombé sur le texte d'un mystique allemand qui s'appelle Angelus Silesius. Un mystique allemand qui est né en 1624 et mort en 1677. C'est assez curieux, en Silésie, à Breslau, qui était à cette époque-là la Silésie germanophone. Et puis, ce personnage, qui est né luthérien, pour des raisons que je ne connais pas, s'est fait catholique et il a voulu revisiter en fait les mystiques rhénans. Alors ce personnage a eu une phrase que je trouve extraordinaire, écoutez-moi bien. Le Christ peut bien être 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert de rien. Le Christ peut bien être 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert de rien. Il est même plus tranchant que cela puisqu'il dit, vous voyez, on a l'habitude d'être plus soft maintenant au XXe siècle, au XXIe siècle. En fait, lui, il dit, s'il ne naît pas dans ton cœur, ce sera ta perte à jamais. Mais on veut un peu assouplir les choses, donc je vous ai dit, ça ne sert de rien. C'est une manière d'interpréter les citations. Vous comprenez ce rapport entre les deux? Ce rapport entre les deux et je crois absolument capital. Parce qu'alors, il nous permet de rappeler que ça ne sert pas à grand-chose d'énoncer la naissance de Jésus, de rappeler la naissance de Jésus, de rappeler les histoires, aussi belles soient-elles, qu'il faut dire et rappeler. Mais ça ne sert pas à grand-chose si nous n'avons pas appliqué, vécu la réalité de l'évangile de Jean. Alors vous voyez l'articulation entre ces deux évangiles, enfin ces deux manières de lire les événements. Et je trouve génial cette cohérence biblique dont certains penseurs ont, sur laquelle certains penseurs ont dit des mots, et je vous le redis. Le Christ peut bien être 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas dans ton cœur. Cela ne sert de rien. Et alors Jean nous apprend, nous invite à naître de Dieu. Ou naître en Dieu, ou encore faire naître Dieu en nous. Qui sont trois manières différentes de dire exactement la même chose. Naître de Dieu. Est-ce que vous utilisez ce vocabulaire ? Pas trop, hein ? Si vous étiez orthodoxe, vous l'utiliseriez. Encore ce matin, à la radio, le patriarche orthodoxe français, le responsable des patriarches, a fait une méditation. Et c'est le vocabulaire qu'il a utilisé. Mais nous, on s'est distancé de ce vocabulaire. Mais c'est dommage. Il nous faut naître de Dieu. Naître en Dieu et que Dieu naisse en nous. Et c'est cela le projet de Dieu. Bon, vous savez que Dieu a un projet. Un projet de salut, un projet de réconciliation, un projet de paix. Éphésiens, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé. La vocation de Paul, c'est de mettre en lumière le projet de Dieu, Éphésiens 3, 11. Et puis c'est redit dans Timothée, il nous a sauvés, Dieu nous a sauvés, non à... il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre projet. Un projet originel, éternel, dira même Jean dans l'Apocalypse. Le projet de Dieu, c'est le même mot que celui qui était utilisé par Nicolas il y a 15 jours. Vous vous souvenez, Nicolas, quand il nous parlait de Ruth, il nous a dit que Dieu avait un récit, qu'il y avait un récit, qu'il y a un récit dans chacune de nos vies. Eh bien, projet, récit, ces deux mots identiques. Et ce projet de Dieu, c'est tellement important de l'entendre résonner au fond de nous-mêmes, parce que c'est à lui, c'est dans ce projet que nous allons pouvoir trouver la source de notre existence, et aussi chez les autres, parce que le récit ou le projet de Dieu reste un récit, un projet universel, quelle que soit l'attitude des humains, qu'il accueille ou ne l'accueille pas. Donc il y a un projet que Dieu veut inscrire en nous. Et laisser Dieu naître en nous, c'est laisser Dieu inscrire ce projet au fond de nous. C'est laisser Dieu nous rejoindre au plus profond de nous par ce projet. C'est faire vivre ce projet en nous. C'est faire de la place à ce projet. Alors la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de nous dire que nous sommes tous invités à entrer dans ce projet de Dieu. Et comme je l'ai dit, pas seulement y croire, pas seulement le rappeler, parce que oui, c'est plaisant, et puis ça fait partie d'une culture sympathique, pas seulement l'admirer, mais entrer dans ce projet. Et chers amis, c'est cela le vrai sens de Noël. À Noël, Dieu se fait petit enfant. Dieu vient naître parmi nous. Dieu cherche à naître en nous. Et alors un penseur faisait remarquer ceci, qu'il se pourrait bien que le grand problème de la vie ne soit pas tellement de vivre, mais de bien naître. Notre souci ne devrait pas de savoir comment je dois bien vivre, mais comment je dois bien naître. Et il est souvent dit que nous avons mal de vivre, il y a un mal de vivre, il y a un malaise de vivre. Est-ce que nous ne devrions pas plutôt dire que c'est un mal de naître, que la naissance ne s'est pas réalisée? C'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus celui que nous sommes appelés à devenir. Nous ne sommes pas vraiment la personne que nous aimerions être. Oh, nous savons très très bien comment donner un aspect de nous-mêmes, une image, une figure de nous-mêmes autour de nous. Et c'est nécessaire, et c'est normal, c'est légitime, je le fais aussi. Mais est-ce que l'image que je donne autour de moi, est-ce que c'est vraiment celle-là que j'aimerais avoir? Est-ce que c'est vraiment à celle-là que j'aimerais naître? Est-ce que nous ne sommes pas uniquement dans l'apparence des choses. Et alors naître, c'est vraiment entrer dans cette pulsion de vie que Dieu veut inscrire en nous et qui nous porte. Naître, c'est être capable de vivre un amour tout neuf. Naître, c'est la plus grande des choses de la vie. Naître, c'est rester constamment en vie. Alors, dans cette... vous avez trouvé maintenant la réponse. Il ne s'agit pas tant de la naissance de Jésus à Noël. Il s'agit de ma naissance. Et chacun d'entre nous peut dire « ma naissance ». C'est ça qui est le plus important. Puisses-tu à cette nuit de Noël naître à ce projet de Dieu pour toi, que cette nouveauté de Dieu puisse jaillir en toi. Et c'est ainsi que jour après jour, Noël trouvera pleinement son sens. Le Christ peut bien naître mille fois à Bethléem s'il ne naît pas dans ton cœur, ici et maintenant, à Lausanne, ou dans n'importe quel lieu où tu vives, cela ne sert de rien. Et alors, si Lézius, qui a pris donc le nom de la ville où il habitait, à vrai dire, il s'est inspiré d'un autre grand penseur qui s'appelle Jean Tauler, qui lui a vécu 2 siècles plus tôt et qui a écrit des choses extraordinaires. Et ce sera ma conclusion. Jean Tauler nous dit ceci, à Noël, nous fêtons une triple naissance. À Noël, nous fêtons la naissance la plus sublime qui soit, c'est celle du Fils unique, engendré par le Père céleste, dans l'essence divine. Voilà, la naissance de Dieu en Jésus-Christ, dans son essence. À Noël, nous célébrons une autre naissance, c'est celle qui s'accomplit en Marie. Et Marie a donné naissance à une personne humaine, bien concrète, par la grâce du Saint-Esprit, au travers de la virginité et la chasteté de Marie, il y a une naissance qui est apparue, naissance admirablement miraculeuse. Mais la troisième naissance, dit Jean Tauler, eh bien c'est celle par laquelle tous les jours, à toute heure, Dieu naît en toi. Dieu naît dans ta vie. Alors, je termine en vous posant un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je désire laisser naître en moi aujourd'hui, demain, dans tous les jours qui viennent? Qu'est-ce que je désire laisser naître en moi? À quoi est-ce que je désire naître? Naître à la paix, naître à la douceur, naître à la confiance, naître à l'espérance, naître à la joie, naître à la patience, naître au pardon, naître à la consolation, naître à la bienveillance, naître à, et à vous de rajouter ce que vous aimeriez mettre.